affabulé.
C'est ça. Affabulé. Affabulé.
Deux F.
わかりますよ、ジャンヌ.
Sounds like they were very happy.
Yes, they were.
もうどれぐらいこの列車に乗っているのか忘れてしまった。
Bonjour à toutes, bonjour à tous d'Étoiles plein les yeux, c'est votre magazine de cinéma sur Transistor et on est de retour après l'émission en direct enregistrée la semaine dernière. La toile cette semaine, c'est un film de Judith Davis, Tout ce qu'il me reste de la Révolution, et puis bien sûr on terminera avec quelques conseils de sortie pour cette semaine de vacances. Les yeux autour de moi, ce sont ceux de Colin, de Martin et d'Arthur. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Aujourd'hui, dans la situation telle qu'elle est en ce moment, et c'est très clair, on peut pas se permettre de garder un deuxième salarié. Je suis vraiment désolée.
C'est le monde qui est comme ça.
Tu sais ce qu'elle te dit, la génération Prozac ?
Nous, à notre époque, c'était différent. C'est vrai que vous avez pas de chance.
Ça ! Tu as adopté le style de la maison ? Hein ? Je retourne ma veste ! Et voilà !
Angèle, on se détend là.
Virer du jour au lendemain par des patrons de gauche, ça s'appelle des raisons concrètes d'être en colère. Je suis pas en train de faire une déprime parce que j'ai pas mis d'après-shampoing.
Monsieur, la dame, elle a fait un zizi sur la banque.
En fait, c'est plutôt un doigt d'honneur qu'un zizi. De toute façon, c'est à peu près la même idée générale. Enfin, les doigts, les zizi.
Tu sais que ça va être l'anniversaire de maman. Je crois qu'elle aimerait te voir. Et ma mère, elle a abandonné son combat politique. Elle est partie du jour au lendemain, elle a trahi, elle a tout quitté.
Ta mère, elle a peut-être juste ouvert les yeux. Réalisé que le monde était absurde, que la vie était absurde.
Pourquoi on vit comme on vit? Pourquoi on fait certains choix?
Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais tu grandis un peu, Angèle.
C'est dingue, on peut plus la poser, la question du pourquoi.
Eh ben non, on peut plus la poser.
Et pourquoi?
Alors voilà, on a entendu quelques petits passages de la bande-annonce de ce film, Tout ce qu'il me reste de la Révolution. Est-ce que l'un d'entre vous peut nous raconter, peut-être brièvement, ce que raconte ce film? Arthur?
Volontiers, Rémi. En fait, Tout ce qui me reste de la Révolution, c'est l'histoire d'Angèle, une jeune géographe qui vient de se faire virer par ses patrons de gauche et qui se pose alors la question de son engagement politique et de la place de sa génération. Actuellement, elle revient vivre chez son père communiste qui a connu mai 68 et fait de nombreuses actions sociales avec une de ses meilleures amies. Et en fait, le film mêle autant drame familial parce que sa mère est partie et faisait strictement le même boulot qu'elle, avec aussi des engagements politiques, mais aussi des questions plus générales sur comment s'engager ou le rapport à l'engagement pour notre génération. On peut dire clairement notre génération parce que Angèle est à peu près vers les 28-30 ans, c'est plutôt la fin de la génération Y. Donc c'est autant un film sur, d'une certaine façon, le gauchisme aujourd'hui qu'un film français tout simplement très très plaisant. Sur les questions familiales.
Alors, avant de passer tout de suite à l'analyse du film, peut-être un petit tour de table vite fait pour voir ce que vous en avez pensé de ce film. Est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'il est bien, Colin?
Alors, je vous conseille ce film que j'ai trouvé très plaisant. Et effectivement, comme disait Arthur, c'est un film qui mêle beaucoup de problématiques et on se laisse vraiment guider avec lui à travers la figure du personnage principal, Angèle, qui est vraiment magnifiquement incarnée par l'actrice qui est aussi la réalisatrice du film. On la suit, on est avec elle, on comprend ses contradictions et on est avec elle au moment de les résoudre.
Martin?
Alors moi, en y allant, je m'attendais à un film très politique, à des actions, des grandes actions, à suivre les grandes actions d'un groupe politique. Et pas du tout, en fait. C'est un film, justement, comme disait Colin, où on se laisse porter, qui est très porté justement vers ses affaires familiales, vers les relations entre les gens. Et je trouve que c'est un film très beau, on voit pas passer l'heure et demie de film.
J'ai particulièrement apprécié le film, c'était très très agréable, très très doux en fait, c'est extrêmement doux. Et j'ai énormément apprécié le propos sur nos engagements politiques et la façon dont c'était présenté durant l'entièreté du film en fait.
Alors donc un propos sur l'engagement politique et puis servi par ce que vous décrivez comme un jeu et une réalisation particulièrement plaisant. On commence peut-être justement avec ce propos. Quel est-il donc ce propos sur l'engagement politique et l'engagement d'une génération peut-être un petit peu perdue.
C'est une génération qui est perdue parce qu'elle a comme grand modèle la génération de ses parents. Donc c'est une génération un peu oedipienne qui doit se séparer de ses parents. Et c'est là aussi que l'histoire de la génération rejoint l'histoire d'Angèle, parce qu'elle, elle a dû se séparer prématurément de sa mère qui est partie vivre ailleurs. Et donc elle a à la fois un problème d'engagement. Elle est très très engagée politiquement et elle n'arrive pas à s'engager dans une vie amoureuse et dans une vie personnelle. Et donc c'est ces contradictions-là qu'elle essaye de résoudre.
C'est un film en fait qui interroge beaucoup la relation entre la personne et l'engagement politique et comment il peut y avoir une dissociation en fait entre cet engagement politique d'un côté et la personne en elle-même. Comment il peut on peut avoir une idée fausse par exemple d'une personne à partir de ses engagements politiques ou au contraire une très belle vision d'une personne à partir de ses opinions politiques, des opinions politiques qui pourraient définir une personne. Et en fait, le fil entremêle toutes ces dimensions et rend quelque chose de très uni. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on se laisse porter de tout le film durant.
Sur cette question, et peut-être que là je vais un peu spoiler, il y a quelque chose qui est très intéressant qui montre une sorte aussi une forme de désillusion mais aussi avancée sur l'avancée en fait du Angèle participe en fait à un petit groupe de réflexion et de paroles un peu libertaire mais qui n'avance jamais en fait dans toutes ces propositions où tout le monde c'est interdit d'interdire ou est-ce qu'il faut pas un moment voter l'enthousiasme sinon personne ne s'entend. Bref, quelque chose qui peut rappeler énormément de réunions à beaucoup de personnes qui ont fait un peu de militantisme. Et en fait ce qui est très très intéressant c'est que ce groupe n'avance pas, mais que à la fin, il est toujours là. Et en plus, il accepte de nouvelles personnes, ce qui veut dire qu'il a du sens pour les gens. Ce qui veut dire que ce qui compte aussi dans l'engagement politique, mais au niveau des personnes, c'est le sens qu'ont les choses grâce à cet engagement, mais pas forcément, sans forcément rentrer dans l'action, ou surtout si c'est performatif. Par exemple, il y a un personnage dont l'engagement a été constant dans la vie, mais on découvre à la fin qu'il a personnellement failli à sa mission, c'est un salopard, et qui a menti à sa propre fille. Donc, je pense que la question se pose à ce niveau-là, sur le lien entre engagement, action et sens pour les personnages. Mais...
Ouais, je trouve que c'est un film qui parle de la surface des gens du coup et de ce qu'il y a sous la surface, et Angèle elle détonne parce que elle n'est que ce qu'il y a sous la surface et elle essaye de c'est comme une gamine qui donne des coups de pied dans la fourmilière quoi, en disant mais vous êtes tous les gens, j'ai envie de voir ce qu'il y a de vrai en chacun, et elle vient faire dynamiter un peu toutes ces surfaces.
Et du coup, c'est effectivement ce qu'on entend un petit peu dans la bande-annonce, un personnage d'enfant très très impertinente. Ça crée des situations drôles. J'ai l'impression quand même, je vous vois acquiescer. Ça crée sans doute aussi des situations touchantes. Qu'est-ce qu'il en est et c'est servi, tu disais, Colline, par le jeu de l'actrice qui donc réalise aussi le film.
Oui, j'ai entendu Malik Zidi, qui joue un personnage du film, raconter qu'en fait, à la base de ce film, c'est une troupe de théâtre qui fait ça. Et donc, la réalisatrice fait partie de cette troupe. Et on sent qu'il y a vraiment une unité, en fait. On sent qu'ils s'amusent ensemble à faire ce film. Et effectivement, tu le disais, Rémi, on est toujours sur un fil tendu, c'est-à-dire que ce qui ressort pour moi comme émotion, c'est vraiment la tendresse, parce que il y a des moments qui sont vraiment drôles et en fait très vite ça bascule dans quelque chose de plus dramatique où justement il y a une craquelure, une fêlure et on s'engouffre dedans. Et tout ce qui ressort, c'est que c'est la tendresse qu'on peut avoir face à tous les personnages, même si certains peuvent être qualifiés de salopards, même si certains ont fait de mauvais choix dans la vie, on a de la tendresse pour eux et on les comprend.
Oui, je trouve aussi que c'est un film très beau humainement parlant, dans le sens où déjà les personnages sont extrêmement bien construits, avec des facettes différentes pour tous les personnages, des expressions, des petits moments qui peuvent mettre le spectateur mal à l'aise mais qui font qu'on s'attache au personnage. Et d'un autre côté, du côté de la réalisation cinématographique, il y a aussi des plans sur les visages des personnages, par exemple des plans fixes, des plans rapprochés, qui sont très beaux et qui permettent de prendre contact en fait avec ces personnages pendant le film.
Et peut-être pour rebondir sur quelque chose de la mise en scène et aussi pour reprendre un peu ce que dit Colin, des fois il y a des moments qui font en plus très théâtre. Je savais pas qu'ils faisaient partie d'une même troupe, mais il y a des moments, il y a un plan fixe vers la fin du film sur une séquence qui est plutôt drôle, où on parodie quand même la Startup Nation, où on simule un entretien pour virer quelqu'un. Et en fait, en l'espace d'une seconde, par le jeu des acteurs, on comprend, alors qu'on rigolait parce que c'est complètement over the top, mais en l'espace d'une seconde, on se rend compte qu'on devient dans un truc sérieux et la scène devient incroyablement violente et signifie énormément, aussi bien pour le personnage qui n'est pas totalement condamné, mais là je vais pas spoiler par la suite, mais quand même une violence de la scène qui était pourtant incroyablement comique, et c'est, je trouve, assez bien fait, surtout que là ça... Il n'y a pas tant de... C'est juste un plan fixe et des champs contre champs entre les deux personnages qui parlent. Donc c'est un cadre qui est assez classique, mais là ça se repose beaucoup alors sur le jeu des acteurs, même si des fois, comme le rappelait Martin, il y a des trucs plus cinématographiques qui accentuent les effets, je trouve.
C'est donc théâtral, drôle, touchant, politique, ça s'appelle Tout ce qu'il me reste de la Révolution. Et j'imagine, chers amis, que vous conseillez à nos auditeurs d'aller le voir ?
Oui, bien sûr. Oui.
Voilà, c'est encore en salle pour quelques temps sur Lyon. Et on termine, comme chaque semaine, avec quelques petits conseils de sortie au cinéma. Et la sortie de cette semaine qu'on vous conseille, c'est évidemment Grâce à Dieu de François Ozon. On part pas très loin puisque le film se situe à Lyon. C'est un film avec Melville Poupeau, Denis Ménochet, Swann Arnaud. Et nous suivons le personnage d'Alexandre, qui vit donc à Lyon avec sa femme, ses enfants, lorsqu'il découvre que le prêtre, qui a abusé de lui lorsqu'il était jeune, officie toujours. C'est un film sur la libération de la parole et le combat de ce personnage pour faire éclater cette parole, cette vérité. Un film évidemment inspiré de faits tristement réels qui a soulevé une petite polémique au cours des dernières semaines, qui sort finalement donc en salle cette semaine et qu'on vous conseille d'aller voir, sous la réalisation sans doute toujours aussi impeccable de François Ozon.
Je m'appelle Alexandre Guérin, père de 5 enfants. Je découvre il y a un mois, par hasard, que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon, comme avant.
Il t'a vu ?
Oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants ?
Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait, c'est notre secret.
Je suis horrifié par ce que vous me dites. Enfin, moi, ce que j'attends, c'est une sanction de l'Église à son encontre.
Je vais être clair avec vous, le père Prénat restera toujours prêtre.
Vous avez une idée d'autres victimes qui pourraient témoigner ?
Mais je suis sûr qu'il en existe.
Il y a une plainte qui a été déposée contre Prénat.
Putain, c'est pas vrai. Mais regarde, il est encore avec des gosses. Je croyais qu'il était mort.
Il va falloir faire quelque chose. Événement cette semaine, ça sera ce mardi 26 février à l'Auditorium de Lyon, qui projettera en ciné-concert avec l'Institut Lumière L'Argent de Marcel L'Herbier, un film de muet donc de 1928. Qui sera projeté avec une musique en création mondiale. C'est une adaptation du célèbre roman de Zola, où un financier joue son va-tout sur un jeune et ambitieux aviateur qui lui promet du pétrole en Guyane. Les décors, les costumes sont particulièrement somptueux dans ce film, qui est l'une des productions les plus onéreuses du cinéma muet français, et qui sera donc projeté dans le spectaculaire Auditorium de Lyon, en ciné-concert avec l'Orchestre National de Lyon. Du côté du patrimoine, ça sera ce dimanche 24 à 14h30 à l'Institut Lumière, qui vous permet de redécouvrir l'une des grandes heures du cinéma de Robert Zemeckis avec Retour vers le futur 2. Avis aux amateurs, je vous rappelle, lors d'un premier voyage dans le passé, Marty a commis quelques petites erreurs et légèrement modifié sa famille. Son fils est tombé sous la coupe d'un voyou qui veut régner sur la ville. Marty tente alors un voyage dans le futur pour tenter de redonner un peu de moralité à son héritier. Un film qui est assurément entré dans le patrimoine et que l'Institut Lumière met à l'honneur pour ce dimanche après-midi de fin de vacances.
Do you remember the future?
You've got to come back with me.
Where?
Back to the future.
Are we back?
We're back.
What do you mean we're in the future?
October 21st, 2015.
Marty, we're going to be able to see our wedding.
Wow, the future. I got to check this out, Doc.
Enfin, bien sûr, on ne se quitte pas sans un petit conseil de notre ami Flavien Poncet des Cinémas Lumière.
Alors aujourd'hui, je vous conseille Si Bill Street pouvait parler, qui est le nouveau film de Barry Jenkins, l'auteur de Moonlight, qui avait remporté l'Oscar du meilleur film il y a de cela 2-3 ans. C'est l'adaptation d'un roman de James Baldwin. Alors James Baldwin, on l'a récemment redécouvert grâce au documentaire I Am Not Your Negro, qui avait remporté aussi l'Oscar du meilleur documentaire. C'est une histoire d'amour très douce, très belle, dans un milieu en même temps très cruel et dur, celui du Harlem des années 70. Avec une inspiration aussi généreuse que dans Moonlight, Jenkins réussit justement le mariage des contraires entre la douceur de cet amour et un monde de brut, encore une fois celui de l'Harlem des années 70. Tout le film est en gros plan et en nappe musicale mélancolique. Le film réussit la prouesse d'ailleurs de dresser un portrait en même temps très touchant de ces jeunes gens qui s'aiment et de saisir l'atmosphère d'une époque, celle combative pour les droits des Noirs américains. Et c'est Si Bill Street pouvait parler.
Okay, soldier. I'm coming out. Okay, soldier. I got no gun and I'm coming out. Soldier.
Vous écoutiez D'étoiles plein les yeux, l'émission de cinéma sur Transistor avec cette semaine Martin Gauthier, Arthur Kramer, Colin Lafontaine, Rémi Cerda. On se retrouve bien sûr dès la semaine prochaine pour un nouveau film et d'ici la bonne semaine à toutes et à tous dans les salles obscures.
Calm down.